Vous écoutez RTL.
RTL. Imaginez Paris, il y a 5000 ans. Une colline, un marais et une grande rivière.
La curiosité est un vilain défaut.
Sur ces terres sauvages régnait alors un seigneur des bois. Par tous les animaux de la forêt, il était craint. Et puis un jour, les hommes sont venus. Ils ont bâti des remparts contre les loups. Ils ont chassé la nature.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Des hommes qui ont chassé la nature et qui ont pollué aussi les villes. Alors nous sommes nombreux à trouver Paris plutôt pollué. On découvre que la capitale est depuis 10 ans un Eldorado pour plus de 3000 espèces d'animaux sauvages. Pourquoi la nature est de retour en ville? Quels sont les animaux qui partagent le quotidien des Parisiens? Toutes les réponses avec notre invité Frédéric Fouja. Vous êtes auteur, réalisateur, producteur de cinéma et de télévision. La plus belle ville du monde, c'est le titre de votre nouveau film à découvrir en DVD mercredi et sur M6 à Noël. C'est un beau cadeau de Noël aussi. Et puis en livre, on fait la totale aux éditions de La Martinière, un beau voyage. Et c'est le passage d'un vol d'oies sauvages à Paris qui vous a donné l'idée d'aller chercher tous ces animaux sauvages. Vous êtes dit quoi, Frédéric Fouja? Mais que font ces oies sauvages au-dessus de ma tête dans cette ville, c'est ça?
Ben oui, les oies sauvages, je les connais bien parce que je les ai filmées en France de nombreuses fois. Et elles n'avaient pas pris l'habitude de venir en ville. C'est récemment. Et effectivement, un jour, je vois un vol passer au-dessus de Paris et je vois qu'elles descendent. Donc visiblement, elles vont se poser quelque part.
Elles sont nombreuses.
Et bah, ce sont des vols, c'est des familles. Hein. C'est ouais. Papa, maman, les 5 ou 6 enfants qui voyagent. Hein. Ouais. Ils font la Suède, l'Espagne en 3 jours. Hein. Ils volent non-stop.
Bon rythme.
Bon rythme. Et puis là, tout d'un coup, je les vois qui se posent dans Paris. Alors là, j'ai commencé à m'interroger. Parce que les migrateurs, c'est assez farouche, ils n'aiment pas trop la présence humaine. Et effectivement, j'ai vu une famille d'oies cendrées qui était là, qui s'est posée au bois de Boulogne. Et ça, j'ai commencé à me dire, mais il y a quelque chose qui change là, il y a un signe que la ville se transforme. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire ce projet et que je suis rapproché de la mairie de Paris qui s'occupe de toute la nature à Paris et qui nous ont donné plein d'informations sur plein d'animaux vivants.
C'est quoi une oie cendrée? Ça ressemble à quoi?
Alors c'est comme notre oie normande qui est blanche, elle est assez volumineuse mais elle a les plumes grises. Elle est cendrée, elle a les plumes grises, elle a un bec orange. Elle est magnifique, l'oie cendrée.
Le bois de Boulogne, c'est une réserve pour les oiseaux. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui?
On peut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un terrain d'accueil favorable à une multitude d'espèces, pas seulement des oiseaux. Et avant, c'était un repère de brigands. Hein.
Alors moi, ce qui m'étonne, c'est ces oies sauvages qui s'arrêtent au bois de Boulogne. On dirait que c'est presque un rendez-vous. Comment elles font dans leur migration, comme ça, répétées de génération en génération, pour s'arrêter toujours au même endroit?
Alors, ce qu'il faut
elles
savoir...
Elles ont un plan, un GPS?
Alors, elles ont plus que ça. D'abord, elles ont une mémoire extraordinaire des lieux. Avant qu'il y ait les humains, elles suivaient les fleuves. Et elles suivent les fleuves pour aller du nord au sud pour éviter de plus avoir de nourriture l'hiver, en fait. Hein. Donc elles vont au sud, là où il y a plus de nourriture. Donc elles traversent des territoires, toute l'Europe. Hein. Il n'y a pas que les oies, il y a les grues, il y a toute une série d'oies qui traversent. Et elles mémorisent tout ce qu'elles voient en une fois.
Comme une cartographie, qu'elles ont en tête, qu'elles
mémorisent. De la France ou des fleuves. Et, ouais. Et elles ont intégré dans leur carto maintenant nos immeubles, nos rues, nos boulevards, les autoroutes.
Elles c'est Google Street maintenant. En fait.
Ben oui.
Elles suivent les autoroutes.
Ben oui, c'est plus facile.
Ben oui, c'est plus facile.
C'est génial.
Et donc
elles ont intégré le bois de Boulogne dans leur cartographie.
Et en plus, elles ont, alors on a découvert ça récemment, elles ont dans leur bec un espèce de détecteur avec de. Comme justement un GPS, comme un réseau internet, elles peuvent savoir où elles sont, à quel moment, quelle latitude, évidemment les phénomènes météo, anticiper tout. C'est très prodigieux hein, ces animaux.
Alors si on essaye de prendre un peu le recul du temps, là vous dites cartographie pour les oies cendrées, nous on va faire une frise temporelle là, et remonter 5000 ans en arrière. On entendait dans la mise en onde d'André Facetta tout à l'heure qu'il y a 5000 ans, Paris c'était une colline avec des forêts, le loup qui régnait en maître et puis l'homme est arrivé, a construit des villes, a mis des barrières, luttait. Est-ce qu'il y a un moment où les animaux disparaissent? Les animaux sauvages disparaissent.
Alors,
de Lutèce?
Ils disparaissent presque tous. Ce qui est intéressant, c'est que Lutèce, ça vient du latin lutum, qui veut dire la boue. En fait, c'est un énorme marécage. D'où D'accord. le marais, d'ailleurs. Le marais, ouais. c'est un marécage ouais. terrible. Donc, il y a une vie foisonnante quand les premiers hommes arrivent à Lutèce.
Et les animaux fuient, c'est ça ?
Non, c'est pas qu'ils fuient, c'est que les hommes s'installent. Et comme partout dans le monde, on construit une ville pour se protéger et des envahisseurs et de la nature.
Bien sûr.
Donc, on assèche, on met des digues, on construit, on met du ciment, de la chaux.
Et il ne reste que les rongeurs.
Il reste ce qu'on appelle les anthropophiles, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés par nous, ceux qui aiment l'homme, c'est-à-dire les rongeurs qui aiment nos grains. Et ceux qui aiment nos détritus, comme les corneilles, par exemple.
Allez, c'est finalement très récent que la nature rentre de nouveau dans Paris. On va raconter ces différentes étapes. Figurez-vous que c'est la promenade, par exemple, qui a fait entrer ces animaux sauvages dans notre capitale. À tout de suite, les curieux.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Les animaux sauvages se sentent bien à Paris.
Surtout quand on leur passe de la musique comme ça.
Bah oui,
c'est
ce que l'on découvre dans la curiosité sur RTL grâce à notre invité, le producteur et réalisateur Frédéric Fouja. Donc on continue de faire un peu d'histoire. On a expliqué que les animaux, sauf les rongeurs, les anthropophiles, c'est ça, c'est ce que vous nous disiez, ceux qui s'adaptent à l'homme, avaient déserté la capitale. Ils sont revenus, disait Sidonie, juste avant la pub, grâce à la promenade. Ça veut dire quoi, ça ?
Et oui, en fait, la promenade, c'est une mode qui arrive d'Italie à la Renaissance. Oui. Figurez-vous que la reine Catherine de Médicis amène ça avec elle dans ses bagages. Et c'est une mode qui consiste à justement aller et venir sans but précis. Oui. Bon, ça nous paraît normal, mais ça n'existait pas à l'époque.
Tant de loisirs.
Et donc, il faut un espace pour se promener.
Et non, on se promène en Italie dans les palais. Mais Catherine de Médicis dit non. Je ne veux plus me promener dans les palais, je veux me promener dehors. Et donc, on fait ce qu'on appelle la cour la reine, près du jardin des Tuileries, dans ce coin-là en tout cas. On amène des plantes, un peu d'eau, quelques statues, pour que la reine puisse se promener. Et évidemment, quelques plantes, un peu d'eau, bah, ça attire déjà quelques animaux, des oiseaux, des insectes. Ça fait renaître un petit peu la ville dans... La nature dans la ville, quoi.
Et si on fait encore un saut dans le temps, Napoléon, lui aussi, fait entrer la nature à Paris. Il va planter énormément d'arbres et créer des parcs, comme oui, le bois de Boulogne.
Exactement. Napoléon III, ben ça, c'est le suite de la mode, puisque en fait, la promenade est réservée aux nobles au début. Et puis, les bourgeois s'en emparent. Ils en font aussi une mode. Et puis, finalement, Napoléon III se rend compte que, pour le bien-être des Parisiens, c'est formidable. Donc, il crée les quatre grands parcs, hein, Vincennes, Boulogne, Montsouris et Butte-Chaumont. Et il demande à Jean-Charles Alphand, l'ingénieur de l'époque, d'habiller ça. Alors attention, le bois de Boulogne et tout ça, à l'époque, c'est on y va parce qu'il y a des chalets suisses, il y a des vaches normandes, il y a des fausses cascades, il y a des fontaines. C'est un vrai voyage, hein, c'est Disneyland avant l'heure, en fait, hein, le bois de Boulogne.
Et un vrai voyage, tiens, je rebondis là-dessus, parce que c'est vraiment ce que vous nous proposez dans ce DVD et dans ce livre, La plus belle ville du monde, qui est publié aux éditions de La Martinière. En couverture de ce livre, il y a un oiseau magnifique, c'est un faucon.
C'est un faucon pèlerin.
Il y a des faucons pèlerins au-dessus de Paris.
Exactement.
Mais ça, c'est dingue, ça. Et comment ils se nourrissent ? Ils chassent quoi ?
Ils chassent essentiellement le pigeon. Le pigeon, c'est leur caviar. Et de temps en temps, la mouette. Parce qu'en hiver, il y a pas mal de mouettes qui arrivent de l'Atlantique. Et donc, ils chassent des oiseaux qui sont quand même relativement gros par rapport à eux. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, le faucon pèlerin, il vit sur des falaises. Pourquoi ? Parce qu'il est, c'est pas un très gros rapace, mais c'est le rapace le plus rapide du monde.
Donc il faut qu'il prenne de la hauteur, le faucon,
donc,
c'est
il
ça ?
Il a besoin, en fait, il se sert de sa vitesse pour attraper ses proies et pour les tuer, hein. Et donc il est capable d'aller jusqu'à 350 km/h.
Voilà, il se perche où, le faucon pèlerin, pour attraper ses
proies ?
À Paris,
dans la ville,
pour attraper
il trouve,
ses proies.
Les gratte-ciels et la tour Eiffel.
Donc à la Défense, par exemple, il y a des faucons pèlerins ?
À la Défense, il y en a quelques-uns. Il y en a surtout dans le 15e. Là. Dans le secteur Tour Eiffel, il y en a pas mal, des pèlerins.
Mais ils chopent les pigeons en plein vol ? Comment ils les attrapent ?
Ils se jettent de 200 mètres de hauteur. Ouais. Ils calculent les trajectoires, parce que là aussi, il a un appareil mental fabuleux avec des yeux hyper puissants. Ils calculent les trajectoires sur 2 minutes, hein, des pigeons. Et donc, il sait qu'en plongeant là, à cet endroit au-dessus du Tracadéro, il va attraper un pigeon qui arrive, qui est en train de passer au-dessus de la Concorde. Et il prend de la vitesse, il part de 0, 100 km/h, 200 km/h, jusqu'à 350 km/h. Et là, il arrive avec sa vitesse et il peut tuer le pigeon d'un seul coup.
Dans votre film La plus belle ville du monde, vous avez équipé un faucon pèlerin.
Oui.
Pour assister à sa chasse, absolument impressionnant.
Il a mis une GoPro, c'est ça, une caméra.
La GoPro était trop grosse pour lui, il ne pouvait pas supporter la GoPro.
Non, comment vous l'avez équipé?
Des toutes petites caméra miniature, on en a mis une sous le ventre pour voir ce que ça donnait sous le ventre, et on en a mis une aussi sur le dos. Donc on a pu voir ce que donnait un piqué en vision faucon pèlerin.
Mais c'est un animal sauvage, Frédéric Fougeat. Comment vous l'avez apprivoisé, ce faucon pèlerin?
Vous parlez le faucon couramment, vous avez pu négocier.
Bien entendu.
Il s'est cher, un faucon.
En fait, pas mal de ces histoires, on a pu les observer, et beaucoup de scientifiques les ont observées. Après, pour les raconter, les filmer, il a fallu qu'on utilise de temps en temps des animaux habitués à la caméra et à l'homme pour D'accord. pouvoir faire des prises de vue de très près, très spéciales. Donc il y a une partie de ces images qui sont tournées des animaux habitués.
Est-ce qu'il y a d'autres rapaces dans le ciel de Paris?
Il y a d'autres rapaces. Il y a le faucon cresserelle qui est là déjà depuis plus longtemps et qui est là à Notre-Dame notamment. Qui est un autre faucon qui vole comme ça sans bouger, c'est très très marrant. Et il y a des chouettes, il y a des hiboux, il y a quelques rapaces qui reviennent, et de plus en plus. Et maintenant, la mairie fait un effort, c'est-à-dire qu'elle encourage le nichage dans les gratte-ciels. Et donc, on ne chasse plus les nids de rapaces dans les gratte-ciels, on les encourage. Du coup, ils reviennent, ils s'adaptent.
Alors, ce qui est fascinant, Frédéric Fougeat, c'est que le pigeon, c'est le caviar du faucon pèlerin. Nous, Parisiens, par exemple, on appelle ça plutôt des rats volants ou des rats du ciel, ce qui est un peu moins sympa.
Ils n'ont pas bonne presse, oui.
Mais grâce à votre film, on les aime un peu plus. Déjà, on apprend à les connaître. Ils semblent tous ressembler. Pourtant, il y a deux espèces de pigeons.
En réalité, il y en a un peu plus, mais je me suis cantonné aux deux plus fréquentes, qui sont les ramiers, qui sont les pigeons des champs, en fait, mais qui sont venus récemment vivre en ville.
C'est les plus courants, ça ou...
Les plus courants, c'est les bisés. Ah. Les bisés qui sont là depuis très longtemps et qui sont en fait les descendants de pigeons qu'on avait à la maison. Parce qu'autrefois, on avait nos pigeons à la maison. Avant qu'il y ait des surgelés, il y avait un pigeon à la maison. Si on n'avait plus rien à bouffer,
pour le bouffer.
C'est une bonne idée.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
Aujourd'hui, la nature prend sa revanche. Elle revient vivre à Paris. RTL. 3000 espèces sauvages vivent à côté de nous, des aventures insoupçonnées. Ils viennent chercher l'amour, le gîte ou le couvert. Par quel miracle sont-ils revenus? Tout proche de nous, mais à l'abri de nos regards.
La curiosité est un vilain défaut.
Au milieu de ceux qui ont choisi de vivre dans la plus belle ville du monde.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Paris secrète, Paris sauvage, c'est ce que nous propose notre invité, le producteur et réalisateur Frédéric Fougeat, avec son film La plus belle ville du monde, qui sort en DVD mercredi.
C'est un extrait qu'on vient d'entendre.
Oui, avec la voix de la comédienne Audrey Fleurot.
Exact.
Très belle voix. Très belle compagne.
C'est pire comme casting.
Hein. Ah oui. Alors c'est marrant parce que pour un documentaire sur W9, j'ai eu l'idée folle d'aller nager avec les gars de la brigade fluviale de la préfecture de Paris, dans la Seine.
Ah oui,
voilà.
C'est là que ça devient
Et on
fou,
m'avait
oui.
dit, bon, il y a des gros poissons qui font des longueurs aussi, c'est les silures, mais ils sont très très loin. Et j'avais pas eu si peur. Et en fait, quand j'ai vu votre film, Frédéric Fougeat, je me suis dit que j'étais complètement inconsciente parce que c'est absolument horrible les silures et ça a l'air extrêmement dangereux. Déjà, ça fait 2,50 m.
Les grands font jusqu'à 2,80 m et plusieurs centaines de kilos. Hein. C'est effectivement des monstres. Ils ont l'air d'ogres comme ça. Ils sont très très vilains. En plus,
avec des grosses dents?
Non, ils n'ont pas de dents justement. Ils ont des toutes petites dents ridicules. C'est pour ça qu'ils ne sont absolument pas dangereux hein, pour nous. C'est des très très gros poissons avec des très grandes bouches.
Et qu'est-ce qu'ils mettent dans leurs 2,50 m ou 2,80 m de corps alors s'ils ne nous mangent pas les jambes?
Ils mangent un peu de tout. Hein. Ils peuvent manger un petit canard, un pingouin. Ils peuvent manger des poissons. Ils peuvent manger tout un tas de trucs.
Vous auriez dû dire ça.
Entre eux-mêmes.
Ah oui, vous auriez dû dire ça à Sidonie plus tôt, parce qu'elle a quand même très mal dormi cette nuit. Rétroactivement, c'est ce qu'elle nous a raconté tout à l'heure en revivant son tournage avec la brigade fluviale en disant j'aurais pu me faire manger par un silure. Non, donc non. Ça mange pas les humains.
Les gars de la brigade fluviale, justement, ils le savent parce que de temps en temps, il y a un silure qui attrape leurs palmes quand ils sont en train de remonter. C'est assez désagréable.
Ils sentent ça quand même. Oui.
Mais ils les croisent très souvent. Et il y en a un sous leur bateau d'ailleurs qui est là en pension.
Ah oui. Est-ce qu'il y a une une période, une heure, un horaire de chasse pour les silures? Est-ce qu'il y a un moment où il est plus efficace?
Avant le petit déjeuner, avant le déjeuner, avant le dîner.
D'accord. En fait, il est, oui, c'est ça. Il mange et il chasse dès qu'il a faim. Quoi,
comment il repère ses proies? Il a un talent particulier?
Ah oui, alors le radar à côté du rafale, c'est rien du tout. Hein. C'est un poisson qui est équipé lui aussi d'un arsenal de détection électromagnétique, mais absolument hors norme. On pourrait, si on savait décoder ça, on pourrait s'en servir. Donc il peut voir dans une eau très boueuse, c'est pour ça qu'il s'est bien adapté à la Seine autrefois, puisqu'il a fait quelques années qu'il est là. Dans une eau très boueuse, il peut détecter la présence d'un poisson ou d'une écrevisse à 20 mètres.
Mais alors ça veut dire que ça c'est une vie sauvage qui existait depuis très très longtemps dans
non,
la Seine, les silures?
Non, c'est récent. Ils sont venus du Danube, donc de Hongrie. Hein. Ouais. Ils ont colonisé l'intégralité des fleuves de France, hein. Il n'y a pas que la Seine. Ils sont passés par les canaux, il y a peut-être des gens qu'on a relâchés, enfin on ne sait pas bien comment ça s'est passé, mais ça fait en gros 50 ans qu'on sait qu'il y a des silures en France et une trentaine d'années qu'il y en a à Paris.
Alors on se souvient de la promesse de Jacques Chirac quand il avait été élu maire de Paris de pouvoir se baigner dans la Seine. Bon, on n'est pas arrivé jusque-là, mais il y a quand même eu une amélioration de la qualité des eaux de la Seine. Et du coup, il y a pas mal d'espèces de poissons qui sont revenus, c'est ça ?
Il restait dans les années 70 3 espèces de poissons. On en a dépassé 40 aujourd'hui. C'est dire s'il y a une amélioration.
C'est impressionnant.
Les eaux usées ont été traitées. Il y a eu des efforts considérables qui ont été faits. Et moi, je m'y baigne fréquemment.
C'est vrai ?
Mais ouais, c'est formidable. On voit presque à 1m50, je me baigne... dans la Seine, quoi.
Ouais. Un peu en dehors de Paris, quand même.
Et donc, c'est vous qui avez pêché le saumon qu'on a récemment trouvé dans la Seine ?
C'est pas moi qui l'ai pêché, mais effectivement, les saumons qui, autrefois, il y a très longtemps, remontaient la Seine pour aller pondre, comme dans toutes les rivières, reviennent dans la Seine. Et on a attrapé un saumon qui remontait la Seine il n'y a pas longtemps.
Alors, on peut aussi croiser des ragondins. Alors, des ragondins, j'en ai vu il n'y a pas très longtemps sur les rives de la Garonne à Bordeaux. Je ne savais pas qu'il y en avait aussi.
Ils étaient sympas ?
Ils avaient l'air assez cool, quoi. C'était drôle parce que je me suis dit, c'est un castor. Non, ce n'est pas un castor ici, c'était un ragondin. Ça ressemble à quoi ? Vous pouvez nous le décrire ?
C'est la famille des castors. Ouais, ça ressemble famille. À un castor, sauf que ça a plus une queue de rat qu'une queue de castor. Ouais. Ça n'a pas la grosse queue du castor.
Mais c'est quoi ? C'est plutôt un nuisible ou un animal
considéré comme nuisible,
qu'on cajole à Paris ?
Très chassé à l'extérieur, dans les campagnes, parce qu'il détruit, en fait, il détruit les berges. Il rentre sous les maisons, il n'est pas du tout aimé dans la campagne, donc il adore Paris, hein, parce que justement là, personne ne l'emmerde.
On lui fout la paix.
Allez, on vous réserve encore des surprises, des renards, des abeilles et des vers à soie, oui, bah, tout ça à Paris, les curieux.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec, jusqu'à 15h sur RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On découvre la vie sauvage à Paris, grâce à notre invité, le producteur et réalisateur Frédéric Foujat. Alors, on a déjà découvert, grâce à vous, qu'il y avait des faucons dans le ciel de Paris et d'autres rapaces, des silures dans la Seine. Et alors, autre surprise à découvrir dans votre livre publié à La Martinière et dans le DVD qui est en vente mercredi, des renards. J'ai jamais croisé de renards dans Paris et pourtant, j'aurais aimé. Il y a des renards dans Paris.
Si vous avez un peu de chance, vous allez les croiser. Mais ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Parce que les renards vivent à la campagne depuis assez longtemps, mais dans la ville, c'est apparu seulement il y a quelques années. Et pour venir s'installer en ville, ils ont dû quand même traverser des zones urbaines importantes de nuit. Et maintenant, ils sont installés, ils ont leur tanière surtout au bois de Vincennes. Et la nuit, ils sortent, ils empruntent les tunnels de la Petite Ceinture, et ils vont partout dans Paris.
Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils regardent les boutiques ? Ils vont boire des coups ? Qu'est-ce qu'ils font la nuit ?
Mais Paris, c'est un festin pour eux. Des millions de rongeurs.
Eh oui.
Imaginez, les rats, ouais. Les souris, tout ça. Et puis évidemment, quand ils n'en trouvent pas, il y a toujours nos poubelles.
D'accord. Ah oui. D'ailleurs, quand ils chassent, on dit qu'ils mulottent, c'est ça ?
Ah, ils mulottent, c'est-à-dire qu'effectivement, avec leur petite moustache, ils arrivent à sentir des petites souris, des petits animaux qui sont sous la neige ou sous la terre. Ils mulottent, ça veut dire qu'ils sentent ça et ils sautent pour essayer de les choper avec leurs petites dents à l'intérieur de la neige ou sous le sol.
Mais bon, ça, Paris, avec le bitume, ça marche pas. Ça, voilà, c'est ça. Ils se sont cassés les dents.
Exactement.
Donc, ils ont trouvé une autre technique.
Pourquoi ils sont heureux
chasse.
Au bois de Vincennes, les renards? Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont.
On a du mal à.
Ils creusaient de terriers, c'est ça, là-bas?
Oui, ils ont leur terrier là, ils font leur petit là. On a du mal à comprendre pourquoi ils sont venus. Peut-être une pression de la campagne extérieure qui fait qu'ils sont mieux là. Il y en a une centaine quand même à Paris, c'est pas rien.
Frédéric Fougea, moi je suis toujours fasciné par les films, les documentaires animaliers et par la prouesse que ça représente. Donc pour vous, producteur réalisateur, j'adore avoir un réalisateur de films animaliers sous la main parce que comment vous faites quoi ? Comment vous réussissez à filmer des renards en pleine nuit, sortant comme ça de leur terrier, partant à la chasse, partant muloter, c'est dingue. Comment vous avez fait ?
On est quand même rencardé, hein. Il y a plein de gens qui nous disent ce qui se passe. Ouais. Il y a plein d'observateurs de la nature à Paris. Mmh. L'ADEV, qui est la direction des parcs et jardins de la ville, a des centaines d'informateurs. Donc on sait qui est où. Et ces gars-là, ils savent, ils appellent les animaux par leur nom pratiquement. Hein. Donc ils savent que là, il y a tel renard, qu'il a sa tanière là, qu'il a fait des petits, que la nuit, on l'a vu parce qu'on a vu ses petites crottes ou des empreintes jusqu'au jardin des plantes. Donc on reconstitue tout ça. Donc on peut arriver.
Et positionner les caméras au bon endroit.
Bah oui.
Ouais. Ça veut dire que ces renards n'ont pas peur de l'homme? Ils sont presque habitués. Ils sont habitués à sa ville et donc à son odeur, à sa présence.
Bah, imaginez, vivre dans une ville de 14 millions d'habitants.
c'est vrai.
On a peur, on est mal. Hein.
C'est plus nous qui ne sommes pas habitués à aller voir les renards. Alors j'ai découvert dans votre film qu'à Paris, il y avait des vers à soie. Où est-ce qu'on peut les observer?
Alors les vers à soie, on les trouve dans quelques parcs et jardins et surtout où il y a un arbre qui s'appelle l'élante. L'élante est un arbre invasif d'ailleurs qui vient d'Asie et qui a été ramené avec les chenilles de l'élante justement. Et c'est un papillon qui vient du Japon et qui a été ramené il y a plus d'un siècle pour faire de la soie naturelle. Parce que le bombyx du mûrier, la même, mais avec l'autre plante qui était le mûrier, était malade. Il fallait le remplacer. Et donc, on l'a remplacé par le bombyx de l'élante. Donc, on a amené le papillon et on a amené l'arbre avec. Et l'arbre, on en trouve par exemple à Montmartre, des élantes. Et c'est sur ces arbres que le papillon pond ses œufs et que petit à petit des chenilles se forment et qu'ils éclosent et il y a toute la métamorphose, tout ça se passe dans Montmartre.
Alors il y a un autre signe de bonne santé d'un environnement, sont les abeilles, et il y a de plus en plus d'abeilles dans Paris. Ben, évidemment parce qu'on a installé des ruches, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Aujourd'hui, pour les abeilles, la ville est moins polluée que la campagne. C'est dingue, hein?
Parce qu'il n'y a pas de pesticides, tout simplement?
Pesticides ont été bannis de Paris en 2006, je crois.
Mm-hmm. Donc elles peuvent butiner tranquillement, les abeilles, c'est ça? Donc,
mais le pesticide, c'est ce qu'il y a de pire pour les abeilles, parce que ça les tue. Alors que la pollution ambiante telle qu'on la ressent, bah finalement, ce n'est pas un poison pour elles. Donc elles s'adaptent très bien à la ville, tant et si bien qu'aujourd'hui, on prend des jeunes abeilles en ville pour les réintroduire à la campagne. C'est un comble quand même.
Mais alors ces essaims, Frédéric Fougea, ces essaims d'abeilles sauvages qui arrivent à Paris, est-ce qu'il y a quelqu'un qui les recueille, qui les capture pour les mettre
Exactement.
Dans ses ruches?
Il y a monsieur l'apiculteur, Nicolas Géant, qui est là dès qu'un essaim arrive. Un essaim, c'est quand même, ça peut être 30 000 abeilles d'un coup. Ça fait comme un énorme ballon de rugby qui circule dans Paris. Et ils vont se poser en hauteur quelque part. Et là, bon, en général, c'est une cheminée ou un arbre dans un jardin. En général, il y a des humains et des petits-enfants qui vont avoir peur. Donc, généralement, on appelle les pompiers. Et là, les pompiers appellent Nicolas Géant qui arrive avec sa
chouette.
Ruche.
Et il les fait entrer comment?
Et il se coule la branche, hop, et ça rentre dans la ruche.
C'est génial.
Et après, il va les installer. Il y a un programme sur tous les toits de Paris. Il y a 60 ou 80 ruches qui donnent du miel. Hein.
Et du bon miel.
Et du bon miel.
J'ai déjà goûté.
Merci beaucoup, Frédéric Fougea. C'est un voyage merveilleux qu'on peut prolonger en regardant votre film La plus belle ville du monde. Il est à découvrir à Noël sur M6. Il sort en DVD pour les plus impatients. Et le livre est à lire aux éditions de La Martinière avec de très, très jolies photos. À bientôt, Micro de la Curiosité.
Merci, à bientôt. C'est déjà fini, ça passe trop vite cette curiosité du week-end. Heureusement, on se retrouve demain, nous on sera là à 20h. On espère vous retrouver avec au programme, Sidonie.
L'histoire des chats et de leur relation avec les humains. Les dessous de l'histoire et...
Je ne tiens pas debout, le ciel coule.
Quel bonheur.
Mais c'est Christine and the Queens, on va raconter l'histoire de cette fille incroyable.
En attendant, bonne fin de week-end sur RTL. On laisse la place toute chaude à Eric Jean-Jean pour son 100% live. À demain.
Salut à tous.